et ses objectifs n'ont pas été revus à la baisse. Gael Soulaouf veut être aligné au moins une fois en Coupe du Monde cette saison.
Ça va très bien maintenant, je suis très content de voilà de mon état physique par rapport aux deux blessures de l'hiver passé. C'est vrai que ça a été ma foi une saison difficile l'hiver passé avec ces deux blessures et puis peu de ski et peu de compétition. Mais j'ai pu suivre une bonne rééducation et puis une bonne préparation, donc c'est vrai que tout roule maintenant.
C'était la cheville, c'était aussi le talon, deux parties assez sensibles, ça s'est vite réparé.
Alors vite, oui et non, c'est vrai que vu que c'était une fracture et puis que j'ai pas eu besoin de forcément opérer, ça a été un peu long au début, disons, où j'ai pas pu faire grand-chose avec une immobilisation. Mais après, j'ai eu la chance que ça se remette assez bien et que je puisse enchaîner assez vite avec une fois que j'ai pu recommencer à bouger avec la physio et tout ça. Donc c'est vrai que ça c'était positif.
La préparation estivale s'est déroulée normalement quand même.
Oui, alors ça c'est vrai que c'était aussi un assez bon point avec le timing de la fin de la réhabilitation. J'ai pu directement enchaîner avec la préparation physique et aussi assez dans le même suivi que les autres athlètes de mon groupe. Donc c'est vrai que ça a permis de pas devoir trop adapter le programme. Donc c'est vrai que ça c'était aussi assez top.
Cet automne, vous vous êtes rendu au Canada notamment. Vous êtes rentré hier, Gael Soulaouf, pour ne rien cacher. À Panorama, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu y faire?
Oui, on est parti deux semaines là au Canada pour faire un camp de fin de préparation. C'est vrai que c'était top. On a pu avoir des conditions optimales pour finir la préparation avec des bons jours de vitesse là-bas. Donc c'est vrai que c'était que du positif.
Vous avez pu vous mesurer aussi à d'autres skieurs de votre groupe aussi. Qu'est-ce qu'il en est ressorti?
Alors oui, moi je suis satisfait. C'est vrai que avec un peu ce manque de ski de l'hiver passé et puis un été qui a pas été forcément facile avec les conditions de neige sur Sasfe avec beaucoup de neige, disons pas forcément très dure et pas forcément optimale pour nous skieurs de compétition. Ça m'a vraiment permis de pouvoir vraiment emmagasiner des kilomètres en vitesse, à haute vitesse, et puis se confronter, c'est clair, avec les athlètes de mon groupe, avec des Urs Kriönbull, Eliane Letour, Lars Rushdie, qui sont Urs Kriönbull par exemple, qui a été plusieurs fois sur des podiums en Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'on a des bonnes références. Et puis ça permet de pour vraiment se rendre compte où on est, et puis même si on n'est pas forcément devant, on n'est pas très très loin, donc c'est vrai que c'est aussi ça qu'il faut regarder.
La saison pour vous va commencer en Italie mercredi prochain, Gael Soulaouf. Quels sont vos objectifs pour cet hiver?
C'est un peu les mêmes, disons, que j'avais prévu pour l'hiver passé. Malheureusement, j'ai pas pu les faire avec ces deux blessures. Donc c'est clair que l'objectif est d'arriver en Coupe du Monde. Après, il y a plusieurs voies pour y arriver. C'est clair que la voie directe pour arriver à la Coupe du Monde avec les peu de places qu'on a actuellement, elle n'est pas forcément certaine. Donc c'est clair que la voie de la Coupe d'Europe est aussi privilégiée avec les places fixes qu'on pourrait y prendre. Donc c'est clair que la Coupe d'Europe et les places fixes, c'est clair que c'est un des gros objectifs. Et puis sinon, de quand même essayer d'avoir sa chance une fois ou l'autre en Coupe du Monde et d'essayer de la prendre.
À votre âge, Gael Soulaouf, qu'est-ce qu'on se dit? On arrive à se dire qu'il ne faut pas brûler ses étapes, c'est facile à faire?
Alors, facile à faire, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on voit les un ou deux exemples comme l'hiver passé, des Arnaud Boisset ou des Franjo von Almen qui ont joliment un peu le même âge que moi, qui ont réussi à faire le pas et puis qui ont montré que le pas était faisable, entre guillemets, qu'on n'avait pas forcément besoin de 5 années en Coupe du Monde pour faire le pas. Donc c'est clair que ça met un peu du baume au cœur et puis on voit que c'est faisable. Mais maintenant il faudra avoir sa chance et puis prendre sa chance. Donc c'est vrai que ça c'est encore des choses à faire.
Cette saison, évidemment, vous allez vous aligner en vitesse. Il y aura aussi quelques géants comme la saison passée.
Oui, alors c'est clair que le géant, c'est toujours une discipline qui me tient à cœur. Après, c'est vrai que c'est pas facile d'aligner toutes les courses avec dans plusieurs catégories et de faire encore du géant à côté. C'est clair que si t'as fait deux semaines de vitesse et puis que les autres ont fait deux semaines de géant, de forcément aller se concurrencer, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de garder un bon niveau et de s'améliorer en géant, en tout cas de mon côté. Et puis s'il y a un peu de place dans le planning pour faire quelques courses, Je prendrai les occasions.
Quand on s'est blessé, comme la saison dernière par deux fois, de revenir, est-ce que c'est plus difficile de le faire en vitesse ou en technique? Vous pouvez nous le dire?
Personnellement, je pense que c'est plus facilement de revenir en technique. C'est clair qu'il y a l'appréhension de la vitesse qui fait quand même quelque chose, l'appréhension de la chute aussi. C'est clair que c'est les deux fois où je me suis blessé, voilà, c'était suite à une chute, c'était pas forcément la chute elle-même. Sur les skis, c'était une fois par terre que je me suis blessé, donc c'est clair que ça c'est pas facile non plus. Donc c'est clair que voilà, on a recommencé aussi tout au début avec même du ski en dérapage, donc on recommence vraiment tout doucement aussi avec le géant. Après on reprend aussi la confiance, et puis c'est clair que cette confiance à très haute vitesse, il va de toute façon falloir quelques kilomètres pour la reprendre à 100%, mais ça je suis sûr que ça va très bien se passer.
Radio Chablais, programme de nuit.
Fin d'année oblige, on va maintenant dresser deux bilans, calmement, se remémorant chaque instant. Il y aura celui du FC Monté en troisième partie, mais avant ça, on s'intéresse à celui du BBC Monté Chablais, Thierry Nicolet.
Les Sangliers ont bouclé leur premier tour de championnat samedi soir en s'imposant 85-80 face à Massagno. Une victoire, la troisième cette saison, qui a permis aux jaunes et verts de s'emparer de la cinquième place du classement, significative de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Après un début d'exercice mitigé, fait de 6 défaites, ce succès face aux Tessinois fait office de point positif. Interview bilan du président du BBC Montais, Claude Potier, réalisé samedi après la rencontre.
Oui, pour deux raisons. D'abord parce que la victoire elle est importante. On était à deux points derrière Massagno. En gagnant ce match ce soir, on rejoint Massagno et puis on arrive dans le top 6, top 5 du championnat. Mais surtout, ce qui est rassurant, c'est ce qu'on a remarqué déjà depuis le match contre Fribourg et le huitième de finale à Verrier, c'est qu'il y a maintenant une belle cohésion d'équipe. On a des joueurs qui vraiment jouent au niveau qu'on attendait d'eux, que ce soit Jared ou Karim, etc. Donc, et puis les joueurs suisses qui confirment aussi leur bonne prestation.
On s'était parlé après le match face à Lugano. C'était une période plus compliquée. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait pour en arriver à cette situation? Vous le dites, ça va mieux.
Après Lugano, pour ne pas le cacher, on a eu une discussion aussi avec les coachs. Il y a eu une discussion que Clayton Lesan, le capitaine, a organisée avec les joueurs, avec tous ses collègues, pour leur dire, écoutez les gars, ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça, on attend de nous, il y a le club qui a beaucoup investi sur nous, etc., qui croit en nous. Et moi, je suis aussi, je crois en cette équipe, parce que je suis convaincu qu'on a des joueurs qui ont un très fort potentiel, et puis on espère que cette cohésion va continuer. Et moi, je sens vraiment cette progression, ça prend du temps, le coach nous l'avait dit, c'est vrai que les rookies qui arrivent des États-Unis, c'est la première expérience, ils doivent s'acclimater, mais là, je trouve qu'on est en train de prendre un rythme de croisière qui, s'il se confirme, va nous apporter des belles satisfactions.
Ces joueurs américains, justement, on a l'exemple d'un Jared Kimbrough ce soir, vous en êtes de plus en plus satisfait?
Oui, alors bon, Jared, c'est vrai que c'était difficile à l'évaluer puisque malheureusement, il a pas pu faire le début du championnat à cause d'une blessure, mais on a vu que le premier match, c'était compliqué, mais dès le deuxième match, il rentrait dans le match. Ce soir, 25 points, 17 rebonds, c'est extraordinaire.
Oui, il y a un double-double très tôt dans le match aussi pour Jared Kimbrough. On va parler aussi de la situation du BBC Monté, qui est cinquième ce soir à l'issue de ce premier tour. C'était pas forcément attendu, vu le début de saison, vous êtes agréablement surpris quand même?
Alors je dirais non, pour moi c'était attendu. Les objectifs qu'on avait fixés avec le coach, c'était d'être dans les quatre premiers du championnat, parce qu'on a un effectif qui nous permet d'être dans les quatre premiers du championnat et on continuera à viser cet objectif.
Le bilan de ce premier tour, justement, quel est-il?
Il est en demi-teinte, évidemment, puisqu'on devrait être aujourd'hui, effectivement, mais solidement quatrième, voire troisième du championnat, mais aussi reconnaître, ce soir, c'est la première fois qu'on joue avec l'équipe au complet, où tous les joueurs sont rentrés de l'infirmerie.
Il y a des ajustements quand même à faire dans cette équipe?
Alors bien sûr qu'il y a toujours des ajustements, mais on voit qu'aujourd'hui la balle circule beaucoup mieux, la défense aussi a pris une amélioration. On avait la plus mauvaise défense depuis le début du championnat. Aujourd'hui, et depuis même, alors Fribourg c'était différent, mais Verrier, etc., on voit qu'on a quand même fait un effort de ce côté-là. Donc le message est en train de passer, la symbiose entre les coachs, le staff technique et l'équipe est en train de bien fonctionner.
En parlant aussi peut-être du club, on le sait, Monté a besoin d'argent, si possible d'ici la fin de l'année, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là?
Alors on continue, c'est un travail quotidien de trouver des sponsors, on a des discussions avec des gens qui sont d'accord de nous soutenir, d'autres qui nous ont renvoyé un petit peu l'année prochaine pour des questions budgétaires, mais j'ai bon espoir qu'on trouve des solutions pour pouvoir continuer cette belle aventure de BBC Monté.
Quand même confiant?
Si j'étais pas confiant, je serais pas président du club.
Le deuxième tour de SB League débute dès ce mercredi. Monté se déplacera sur le parquet d'Union Neuchâtel.
Merci Thierry Nicolet.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On termine ce mag sport avec le bilan de la première partie du championnat. C'est du football, le plus gros club du Valais. Thierry Nicolet, le FC Monté, est ton invité.
Les Rouges et Noirs auraient dû terminer leur premier tour de championnat de Première Ligue samedi. L'état du terrain du FC Coffrane en a décidé autrement. Les joueurs de Lucien Desnervaux donc passeront l'hiver au 12e rang sur 16 de la 4e division nationale. Pour en parler, nous recevons ce soir le président du FC Monté, Julio Tejeda. Bonsoir.
Bonsoir.
Je l'ai dit, 12e, 15 matchs, 16 points. C'est décevant pour vous? Vous attendiez à mieux?
Oui, oui, c'est clair, on s'attendait à beaucoup mieux. L'objectif était dans les 5 premiers. C'est clair que malheureusement, avec toutes ces blessures qu'on a eues pendant le premier tour et les absences importantes de longue durée, on fait qu'on a eu une première partie de saison difficile.
Oui, une première partie de saison difficile. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Monté reste cependant sur 2 victoires. Les blessés sont revenus notamment. Ça, c'est motivant pour le deuxième tour.
Ah oui, clairement, c'est très motivant et surtout ça remet de la concurrence et c'est ce qu'on a besoin. En fait, l'équipe a besoin de ça. On va faire 2-3 ajustages par rapport à des départs qui sont prévus, mais c'est vrai, on veut continuer dans cette voie à gagner des matchs.
Ouais, je parlais des moments moins réussis. Il y a eu ce trou entre le 5 octobre et le 2 novembre. 5 défaites de suite pour monter. On a parlé des absences. Et à un moment donné, quoi, on voulait presque aller chercher des joueurs. On en était à ce point-là.
En tout cas, on a réfléchi à aller chercher des joueurs, ça c'est clair. Maintenant, on a dit on faisait confiance au groupe jusqu'à Noël. Ils ont bien réagi sur la fin, donc on a confiance, j'ai confiance, puisque c'est quand même moi qui ai construit ce groupe depuis plusieurs années. Donc on a clairement une équipe quand tout le monde est là pour être dans les 5-6 premiers.
Dans les 5-6 premiers, dans des périodes comme celle-ci dont je parlais, avec 5 défaites de suite, certains clubs auraient pu paniquer. Vous, le FC Monté, avez maintenu votre confiance à l'entraîneur. Lucien Desnervaux, ça n'a jamais été remis en question.
Non, je pense pas, parce que Lucien avait prouvé aussi qu'il avait les moyens de faire un super deuxième tour l'année passée, donc on avait totalement confiance, moi et tout le monde comitait en Lucien, et au groupe surtout, donc on savait quand tous les absents allaient revenir, on allait faire les points qu'il nous fallait.
Ouais, ces points sont venus, il y a notamment une victoire face à la Chaux-de-Fonds, qui est le premier légal, donc on s'est donné aussi un peu d'air du côté du FC Monté. Vous avez parlé d'ajustement, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup d'arrivées ou on essaie de garder un groupe plus ou moins homogène par rapport à...
Non, justement, nous, notre objectif c'est de garder le même groupe, de faire des... on sait qu'il y a déjà un départ, puisqu'il part faire un voyage à l'étranger, donc on devra le remplacer. Et après, ça sera une ou deux touches, on ne va pas révolutionner, ce n'est pas notre objectif principal.
Le top 5, top 6, ça reste faisable, possible sur le deuxième tour?
Ben, je pense que oui, c'est vrai que les 4 premières places, je pense, ça va être très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de points. D'ailleurs, ils ont des points énormes par rapport à toutes les autres saisons. Hein, parce qu'on dit avec 50-55 points, on fait des finales. Donc nous, notre objectif, c'est d'embêter comme on voulait faire les grosses équipes à la maison et puis se rapprocher de plus de... s'éloigner de la barre et s'approcher de ces 5-6e place.
Voilà, ben, on sait à quoi s'attendre pour ce deuxième tour. On va parler un peu de vous aussi, Julio Tejeda. Vous êtes président depuis cet été, après 10 ans d'ère Dominique Farinato. Bon, 6 mois à peu près, environ. Vous y prenez goût, il n'y a pas de regret?
Non, quand j'ai décidé de prendre la présidence, c'est que j'étais motivé pour le faire. Donc c'est clair que, aussi, ben, j'ai vu l'autre côté des choses. Tout ce qui est finance et tout ça, t'es pas très intéressant, mais qui fait partie d'un budget d'une première équipe.
Quels ont été les principaux défis sur ces premiers mois pour vous?
Alors, le plus gros défi, c'est clair qu'on avait le responsable junior qui est parti et qui a fait 10 ans, qui connaissait tout, qui gérait de main de maître ça. On a dû le remplacer et ça a été un boulot qui a duré tout l'été, qui était énorme. Et c'est clair qu'on a, pour dire un exemple, pour le remplacer, Dominique Bianchi, hein, qu'on remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour le FC Monté, on a dû se prendre 7 bénévoles.
Et c'est vrai que ça fait assez énorme. Pour qu'on se rende bien compte, le nombre de juniors au FC Monté, ça représente combien de personnes?
Ben, les juniors, c'est 650 juniors. Donc, c'est clair que c'est un gros paquebot de jeunes qui jouent au FC Monté et puis qu'on donne la chance à tous les jeunes qui veulent faire du foot. De pouvoir jouer au foot au FC Monté.
Quand on vous écoute, c'est vrai que c'était un sacré défi. Il fallait être un peu fou pour devenir président. On vous l'a dit, ça?
Bon, on me l'a dit souvent, mais j'étais motivé. J'avais aussi un comité qui était derrière moi, qui voulait me soutenir et qui bosse avec moi. On fait qu'un groupe. Et puis, sans ça, je pense que c'est impossible de travailler tranquillement.
Ah, vous avez été joueur au FC Monté, vous avez été entraîneur, vous avez été directeur sportif. C'était la suite logique, là, de prendre la présidence?
En tout cas, la suite logique par rapport à ce que j'avais envie de le faire. Donc c'est clair que c'était pas forcément un rêve ou quoi que ce soit, mais c'était, je pense, j'ai l'énergie aujourd'hui pour le faire encore quelques années, et puis après là, j'aurai la place pour donner à quelqu'un d'autre.
Ouais, ce club du FC Monté, comment il se porte aujourd'hui?
Ben, ils se portent bien, en tout cas financièrement. C'est vrai qu'on a des, on a un petit budget pour la première ligue, mais malgré tout, c'est difficile. On est une région où l'argent tombe pas du ciel, donc c'est vrai que c'est, on doit travailler tous les jours. Et puis, avec un budget de 800 000 pour tout le club, y compris le mouvement junior, c'est clair qu'il faut, il faut bosser pour pouvoir trouver des nouveaux sponsors.
Ouais, vous, on l'a dit, vous êtes présidente depuis cet été. Il y avait un projet qui avait été initié déjà il y a quelques années. C'est le projet de régionalisation. C'est d'aller chercher de régionalisation. C'est d'aller chercher des, dans les quatre coins de la Romandie. Ça, c'est faisable quand on joue au quatrième, en quatrième division nationale, de pouvoir compter sur, sur un bassin assez petit finalement.
Ouais, je pense que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que on veut encore plus améliorer la, la relation qu'on a avec le FC Sion, avec le Team Valais, pour pouvoir récupérer ces jeunes qui, malheureusement pour eux, n'arrivent pas à être, devenir professionnels. Et je pense que ça, on peut encore améliorer pour pouvoir donner la chance à des gens qui loupent, malheureusement, ce rêve. Eh ben, de donner, de jouer à niveau quand même, la première ligue, quatrième division suisse, un joli niveau pour eux.
Oui, puis il y a des exemples, on pense à Steve Rouillet, qui est capitaine aujourd'hui de Servette, qui était repassé par Monté après le FC Sion. Ces jeunes joueurs, on comprend que le, finalement, le FC Monté, dans le canton, a aussi un rôle assez important à jouer, en allant les chercher.
Ben, c'est ce qu'on essaye en tout cas de leur transmettre, c'est de dire, ben, viens chez nous, peut-être, en te relançant, tu auras la chance de peut-être repartir, jouer en Ligue nationale, en première division.
Ça fait 6 mois que vous êtes président, Rulio Tejeda. On peut s'attendre à encore combien de mois ou d'années? Vous savez déjà?
Alors nous, on a un objectif de 3-5 ans. Je pense qu'on a l'énergie pour le faire. Et puis qu'en arrivant, on fera un bilan, peut-être plus longtemps. Mais en tout cas, le premier objectif, c'est 3-5 ans.
3-5 ans, ben voilà. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Rulio Tejeda. Monterre, t'en pause, on l'a dit, reprendra le championnat de Première Ligue le 22 février par un déplacement à Chénois. Merci beaucoup, Rulio Tejeda. Belle soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et bonne soirée tout le monde.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Ça fait du sport et en même temps c'est magnifique à voir. Bah, qu'est-ce que c'est que le patinage artistique? Bah, Nathalie Jacquard, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Loïc, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Vous êtes prof et coach au club de patinage artistique de Monté.
Exactement.
Et le patinage artistique, c'est quoi? Moi, ça m'a toujours fasciné, en fait, le fait qu'on mélange ces deux aspects où il y a presque de la danse, il y a de la beauté et du sport. Du coup, c'est quoi?
Oui, c'est du sport et de l'art en même temps, par rapport peut-être à la danse, c'est aussi un sport. On a les musiques, coordination, souplesse, explosivité, c'est un sport très très complet et très très riche.
Et comment est-ce que ça, est-ce qu'on sait comment ça a été créé, le patinage artistique?
Alors où ça date?
Ça date
vraiment. Je crois que les premières lames, c'était des os. C'était fait avec des os.
Ah,
vraiment,
ouais.
Vraiment les toutes premières lames. Donc ça date. Je peux pas vous dire exactement de quelle année, mais oui, ça existe depuis très longtemps. Avec ouais, alors les robes étaient différentes. C'était les longues robes. C'était vraiment l'époque, mais ça date.
Ok, parce que oui, j'imagine que ça a bien évolué. Et puis le patinage artistique. Donc on dit que c'est un sport avec de l'explosivité. Vous avez dit à quel moment il vient l'explosivité? Parce que c'est vrai que nous souvent on les voit se balader comme ça, ça tourne. Là, c'est les petits moments qu'ils ont de respiration.
Actuellement, j'ai envie de vous dire que dans le patinage, il n'y a plus de moment de respiration. Tout est très complet, les pirouettes sont devenues très difficiles. L'explosivité, c'est au niveau des sauts, évidemment. Il faut aussi beaucoup de coordination, beaucoup d'endurance lors des programmes. C'est vraiment un sport très complet où on n'imagine pas vraiment à quel point le off-ice est important aussi.
Oui, parce que on parlait de, ben vous parlez de coordination, il faut être en rythme avec la musique.
Aussi, absolument. Et puis, vraiment, pour le jugement actuellement, pour les composantes, la deuxième note, il faut être vraiment... l'exécution du programme soit vraiment en musique.
Oui, alors, bah, parce qu'il y avait un temps où c'était pas forcément obligé?
Non, ça a toujours été obligé, mais là, c'est encore...
encore
l'exigence, l'exigence est encore plus grande.
Donc, il faut un sens du rythme, d'où la coordination, et tout ça, en plus, il faut avoir un style, il faut avoir une grâce.
Ça aide, effectivement.
En règle générale, voilà, on y met du cœur, en fait.
Oui, beaucoup de patineuses font de la danse à côté aussi, pour la souplesse et pour la grâce.
Ah, donc ça...
C'est très important.
Et ça se travaille beaucoup, j'imagine.
Absolument, c'est pas inné chez tout le monde. Évidemment, si on a un petit talent là-dedans, ça aide, mais ça se travaille aussi.
Mais même avec du talent, je veux dire, c'est un sport qui demande, qui est très exigeant.
Exactement, ouais.
Enfin, c'est plus que ce qu'on pourrait imaginer, en fait.
Complètement. C'est une belle école de vie pour les petites filles. Peut-être elles sont attirées par le patinage, par la petite robe à paillettes, les petites coiffures. Aussi pour les parents, mais c'est très exigeant.
C'est très exigeant. Oui, alors les petites paillettes, c'est vraiment que la parure. Parce mais que finalement, après, ça bosse et ça transpire.
Ouais, souvent, on débute pour ça, si les enfants commencent très jeunes, ce que nous espérons du côté de Monté, en tout cas. Mais voilà, souvent, les petites filles sont attirées par les petites robes, mais il y a beaucoup de travail derrière.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'on revienne juste après pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce qui se fait justement au CPA de Monté. Et puis on revient tout de suite.
Avec plaisir.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Vadérétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Le patinage artistique, c'est un sport de glisse qui mélange sport et art. C'est beau, mais qui demande de la coordination, de l'explosivité, de la souplesse, de la rigueur. C'est une jolie école de vie qu'on commence souvent pour les jolies robes à paillettes, surtout pour les petites filles. Mais on se rend vite compte qu'on va transpirer, n'est-ce pas Nathalie Jacquard? Vous êtes prof et coach au CPA de Monté, ça transpire sec.
Absolument, et dès le matin à l'aube parfois.
Comment ça?
Oui, certaines de nos patineuses qui se présentent pour des Swiss Cup sont sur la glace à 6h du matin, deux fois par semaine.
Donc avant d'aller à l'école ou avant de commencer le boulot, en apprentissage ou importe?
Absolument.
À 6h du matin, elles sont sur la glace?
Oui, on a une heure et demie d'entraînement à ce moment-là, qui est assez profitable parce qu'elles sont bien en forme, pas encore déstabilisées parfois par l'école ou le collège.
Mais c'est hyper tôt. Et là, là on demandait de la rigueur. Mais rien que là, ça veut dire qu'il faut se lever à 5h du matin pour aller faire sa passion.
Absolument. Et on a pas mal d'élèves qui viennent de Montreux ou de Grillon ou de Viona. Tout le monde n'est pas sur Monté. Donc, chapeau aux parents aussi, j'en profite.
Ouais, parce que effectivement, le sport, quand on est jeune, ça passe aussi beaucoup par papa et maman. Ça ne faut pas déconner. Mais du coup, il y a plein de gens qui viennent au club de patinage artistique de Monté.
Oui, on a beaucoup d'ailleurs de chance. Le club est très sain. Tout se passe très bien. On a pas mal d'adultes aussi qui nous ont rejoints le lundi soir à 21h. Le cours est d'ailleurs complet pour cette année. On a plus de 20 personnes, ce qui est vraiment une belle réussite. Et puis, grande nouveauté chez nous aussi, on fait une école de patinage en collaboration avec le HC Monté, où les petits hockeyeurs ou patineuses débutent avec des coachs des deux milieux, ce qui est tout à fait nouveau. Et puis ensuite, ils apprennent les bases du patinage et ensuite, ils se destinent soit au patinage artistique, soit au hockey. C'est une nouveauté à Monté.
Et comment ça se fait qu'on a décidé de faire ça? C'est quoi l'intérêt finalement?
Et ben, ça donne une grande ouverture aux enfants, moi je pense, parce qu'il y a des coachs du hockey, des coachs du patinage. Et puis c'est important aussi pour ces jeunes hockeyeurs qu'ils aient des bonnes bases de patinage avant de toucher le puck.
Oui, alors ça effectivement. Et puis le passé de toucher les deux aspects, en fait, ça complète finalement, ça vient combler des lacunes peut-être que l'un ou l'autre ne peut pas, qui manquerait si on faisait que l'un ou que l'autre.
Complètement. Et puis il y a de plus en plus de petites filles aussi qui s'adonnent au hockey. Et puis peut-être certaines se disaient oh, je vais aller au hockey parce que mon frère fait du hockey, et en voyant un peu les possibilités en patinage, elles basculent peut-être sur le patinage et vice versa. Donc je pense que c'est intéressant pour monter pour les deux clubs.
Ok, et puis vous parlez des adultes, cours à 21h, c'est un peu l'équivalent l'équivalent adulte de ces enfants, de ces jeunes qui se lèvent à 5h du matin. Là c'est des gens qui vont rentrer à 10h, 11h le soir.
Complètement, et je les trouve très courageux aussi. Je crois qu'il y a une personne, un aîné, un monsieur qui vient, qui a passé 80 ans, si je ne me trompe pas, wow, et qui est toujours là. Et ouais, je pense qu'il y a pas mal d'adultes qui sont fidélisés dans ce cours, et chapeau à eux.
Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de je veux dire, il y a des débutants et des expérimentés ou...
Exactement, on a dû dédoubler le cours maintenant, et puis il y a deux groupes. Des anciens patineurs qui ont plaisir à rechausser les patins et à venir tester ce qu'ils sont encore capables de faire, et puis aussi des débutants qui n'ont jamais pu patiner parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion et qui essayent.
Et qui se lancent maintenant,
et
mais c'est magnifique ça.
Absolument.
Et on travaille de la même manière avec un jeune qui commence ou avec un adulte qui commence?
Non, sincèrement pas, parce que c'est plus facile pour un jeune de tomber.
Ah oui.
Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable. Pour un adulte, on va être plus prudent, on va plus faire de travail de quart au début que des sauts, des choses comme ça, mais ça peut être très intéressant aussi et très varié.
Oui, parce qu'effectivement, déjà, être à l'assurance une fois tous les deux mois parce qu'on a été faire un cours de patinage, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis, surtout que quand on tombe, c'est de la glace.
Absolument.
Ça peut piquer un petit peu.
Ça pique un peu et on n'est pas beaucoup protégés, les patineurs. Donc, effectivement, ça pique.
Et comment est-ce qu'on gère, justement, quand on sait qu'on doit faire un salto, qu'on doit faire un saut et qu'on doit se lancer et qu'on peut tomber? Comment est-ce qu'on gère ça?
C'est tout un apprentissage. Alors, pour les plus jeunes, là, je parle pour nos futurs compétiteurs ou nos membres, c'est un long apprentissage. On commence par des petits sauts, après par des demi-tours, par des tours. Il y a aussi un grand travail qui est fait au sol, et puis un travail de quart aussi. Donc petit à petit, puis on apprend à tomber aussi et à se relever, effectivement.
Ah oui, alors là, jamais mieux dit, tomber pour se relever, c'est aussi une belle école de vie, et c'est du littéral.
Alors complètement, pour ce qui est du patinage.
Et on va petit à petit, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller par palier, c'est-à-dire qu'on va pas nous lancer sur une piste de patinage en disant « vas-y, maintenant je veux un triple lutz ».
Absolument pas.
On va commencer à aller tout mollo. Et...
Oui, bon, ce qu'il faut dire aussi, en patinage, on est très vite âgé, malheureusement. Si on ne perce pas rapidement au niveau des championnats suisses, etc. Donc, on ne va pas si mollo que ça pour un enfant qui aurait envie de s'adonner à la compétition. Mais quand même, on est prudent et bienveillant.
Alors, on y va par étapes. J'imagine que ces étapes, elles sont travaillées, elles sont étudiées en fonction de la discipline. On sait que dans cette discipline, il faut arriver vite à un niveau de compétition si on veut pouvoir percer. Donc, c'est adapté.
Absolument.
Et puis pour les personnes qui seraient un petit peu intéressées comme ça, bon, pour l'instant vous êtes pas mal plein, c'est ça?
Alors, on recherche, je le dis, à chaque fois des très jeunes, vraiment des très jeunes. On manque un petit peu de 3-4 ans, à condition que ces enfants soient capables de se détacher des parents pour une heure de cours, débutants, parce que c'est mieux de commencer jeune, comme pour tout sport, je pense. Donc, ce créneau-là, on en cherche encore, on a de la place sur les samedis matins. Mais sinon, le cours étoile, comme on appelle, du mercredi est complet, le cours adulte est complet. Et puis, s'il y a des compétiteurs qui aimeraient nous rejoindre, on est tout à fait ouvert aussi, à ce niveau-là.
De toute façon, vous êtes sur la glace à partir de 6h du mat. Vous êtes
déjà là, lundi, vendredi, on est là.
Par contre, ce qui me surprend, c'est que vous cherchez déjà des jeunes si petits que ça, 3-4 ans.
Ouais.
C'est rare dans les sports, on a parlé de baby rugby une fois ici, où justement ils commencent aussi tout petit, mais là c'est 3-4 ans.
Ouais, c'est vraiment baby court, parce que justement l'apprentissage est court, le temps est compté. Parfois certains parents disent on a le temps, on l'ouvre à beaucoup de sports, ce qui est bien aussi, de découvrir plein de choses, et c'est ce qu'ils font souvent dans ces âges-là, entre 3 et 6 ans, et puis après il faut y aller.
Et après, il faut y aller, il faut bosser. Et une fois de plus, on transpire malgré le froid.
Absolument. Et très vite, ça peut devenir une passion malgré tout ce patinage, malgré le froid, les chutes et puis la difficulté.
Bah, c'est que à vaincre sans peine, on triomphe sans gloire.
Absolument, c'est bien dit.
Et puis, c'est vrai que c'est dans l'effort finalement qu'on a la plus grande récompense. Et puis moi, je peux comprendre tout à fait qu'on reste, qu'on soit piqué par la bestiole, en fait, pour un sport qui est aussi beau que ça. Merci infiniment Nathalie Jacquard. Je rappelle que vous êtes prof et coach au club de patinage artistique de Monté. Vous êtes venu nous expliquer ce que c'était que le patinage artistique. C'était pas forcément ce qu'on croyait. C'est plus exigeant que ce qu'on peut imaginer. Et c'est tout aussi beau que ce qu'on peut voir. Merci infiniment et excellente soirée.
Merci Loïc de faire
juste
la promotion.
Encore, oui, peut-être justement en parlant de promotion, cpamonté.ch si vous voulez regarder la page web, et sinon sur l'Instagram cpamonté également. Merci beaucoup, excellente soirée.
Merci Loïc.
Radio Chablais. Programme de nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Les pintes ouvertes vaudoises reviennent, c'est dès ce jeudi jusqu'à samedi, jeudi, vendredi et samedi, un menu convivial pour 20 francs. Gilles Mestre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Gastrovo, c'est justement Gastrovo qui est à l'initiative de cet événement. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe.
Cet événement, c'est la 7e édition des pintes ouvertes vaudoises. On voulait faire un pendant des caves ouvertes à l'automne, puisque les caves ouvertes le printemps et les pintes ouvertes en automne. L'idée, c'est de rassembler autour d'un plat convivial, et puis qui dit convivialité diffondue, en offrant pour 20 francs, effectivement, une planchette de saucisson sec vaudois, une fondue 100% AOP vaudoise, du pain de l'artisan boulanger et un verre de chasselas. Tout ça dans des établissements établissements qui font la fondue traditionnellement ou pas forcément, et c'est aussi pour eux l'occasion de proposer un plat particulier. C'est surtout l'occasion pour les clients d'aller découvrir des bistrots qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter.
Alors moi c'est une tradition, hein, les pintes, j'y vais chaque année, c'est surtout le moment d'aller franchement entre potes. Il m'est arrivé de réunir même des tablés où on était quasiment 30 dans un resto pour profiter d'un lieu, et comme vous l'avez dit, pas nécessairement un lieu habitué à la fondue, peut-être aussi un lieu qui a décidé de participer pour faire la fête.
Exactement, la fondue c'est le plat de la convivialité, c'est le plat où on n'exclut personne. Et c'est pour cette raison aussi que Gastrobo n'a pas souhaité le réserver cet événement à des pintes, à des auberges communales, mais vraiment que tout le monde puisse le faire. Et je sais que dans la région, il y a quelques établissements qui ne la proposent pas forcément, mais parce qu'elles tiennent à cette tradition désormais, et parce qu'elles tiennent à cette idée d'authenticité et de convivialité. Évidemment que c'est entre amis qu'elle est la meilleure. D'ailleurs, le Lausanne Sport a bien saisi l'occasion pour en faire sa une grande fondue de 300 personnes, c'est plein, c'est la preuve que c'est un concept qui fonctionne, et c'est la 7e année qu'on le réédite avec vraiment plaisir et satisfaction.
Dans la région Riviera-Chablais, les restaurants qui participent, alors on sait que forcément à Aigle ou autre, ça va jouer le jeu.
Alors ça joue bien le jeu, aussi bien dans la région du Chablais que sur la Riviera. Je ne vais pas citer tous les noms, mais enfin, allez, on va citer ceux du Chablais. Café Bar Les Amis, le restaurant du Golfe de Montreux, le Ranch Bar à B, l'Écusson en Vaudois à Panay, le restaurant de la Couronne au Diableret. Voilà les rendez-vous et les participants.
Du Chablais, mais alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que ceux que vous nommez, c'est aussi peut-être l'occasion d'aller découvrir des lieux, d'aller à la rencontre de certains lieux. Vous nous parliez par exemple à Panay, de l'Écusson Vaudois, ou du Ranch Barabé, ou des Amis, du Café Bar Les Amis. C'est tous des endroits où on ne va pas nécessairement.
C'est également le cas du Golfe de Montreux, où on se dit « Oh, c'est Golfe, ça est habillé correctement, et puis il y a peut-être un standing à garder ». Ben non, la patronne a dit « Non, je participe », parce que c'est aussi ça, la fondue, c'est d'ouvrir des lieux dont on ne pousserait pas forcément la porte.
Et puis, vous citiez aussi la Couronne à Yvonne, peut-être l'occasion d'aller en avance chez un vigneron, chez une vigneronne, découvrir quelques cépages pour ensuite, justement, aller manger la fondue.
Exactement, comme président de Vaud Tourisme, je ne peux que vous encourager à faire ça, faire travailler tous les artisans, il n'y a pas seulement les restaurateurs, il y a évidemment les représentants du liquide, de nos magnifiques liquides vaudois, et quoi de mieux que dans la région pour en profiter. Donc liquide, solide, fête, convivialité. 5 au 7 décembre prochain.
Avec toutes les infos sur pinteouverte.ch, pinteouverte au pluriel.ch, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite, Gilles Mestre.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Les Pintes Ouvertes vaudoises, c'est ce week-end, ou même déjà des jeudis, jeudi, vendredi et samedi, pinteouverte.ch pour toutes les informations. On rappelle, pour 20 francs, vous avez droit à une planchette, à une délicieuse fondue AOP vaudoise et à un verre de chasselas. On a cité les restaurants du Chablais, Gilles Mestre, mais faut pas oublier que le Pays d'en Haut et la Riviera jouent le jeu à fond.
Absolument, il y a une dizaine d'établissements du côté du Pays d'en Haut et de la Riviera. Deux au Pays d'en Haut, le bowling du parc à Châteaudet, le chalet à Châteaudet, et puis du côté de la Riviera, le Veneto à la Tour de Paix, la Tramontane aux Avants, le Café du Port, la Val-Sainte, le Qui Même Café à Vevey, le restaurant de l'Étoile à Villeneuve et le restaurant Les Fougères à Blenay. Donc vous avez l'embarras du choix. N'oubliez pas de réserver. Certains établissements sont déjà blindés, si vous me permettez l'expression. Donc les deux services des trois jours sont parfois pleins. Donc téléphonez, et s'il n'y a pas de place, lisez la liste, parce que vous avez l'embarras du choix quand même. Il y a plus de 8 ans de participants.
À 8 ans de participants, peut-être aussi l'occasion d'aller découvrir d'autres régions et d'autres endroits. C'est à midi et le soir, hein, les pintes.
C'est à midi et le soir, le jeudi, le vendredi et le samedi. Certains ne font qu'un service. Donc là, une raison de plus aussi d'aller vérifier les disponibilités sur le site pinteouverte.ch.
Gastrovo a publié la semaine passée sur les réseaux sociaux une collaboration, on va dire, avec Franck Giovannini. Expliquez-nous ce qui se passe.
Vous savez que la restauration, comme d'autres branches, post-Covid, ont des difficultés de recrutement, sont parfois aussi connotées en termes d'image. Alors c'est vrai que c'est pas la branche la plus facile, la moins pénible, mais je crois qu'elle a tellement d'atouts, des atouts, encore une fois, en termes de relations humaines, en termes d'innovation, en termes de capacité, de possibilité de voyager, de travailler en équipe. Et GastroSuisse a lancé cette semaine une vidéo qu'on peut trouver sur les meilleurs réseaux sociaux, qui met en avant Franck Giovannini, chef 3 étoiles de Crissier, bien connu, qui franchement pourrait se contenter de faire son magnifique travail à Crissier, mais non, qui s'engage pour la branche, qui s'engage pour la relève, qui s'engage pour l'image de la branche et de la relève. Et je tenais à saluer cette démarche et cette participation. Franck monte avec une équipe de 4 ou 5 jeunes un bistrot éphémère, enfin un lieu de réception éphémère dans un parking à Bienne. Et il est un peu comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Il doit monter ce restaurant en quelques heures avec une équipe et un staff. Et c'est une chouette vidéo qui est amusante et qui montre l'engagement d'ambassadeurs de renom comme Franck. Merci à lui.
On rappelle donc cette vidéo à trouver, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux. GastroSuisse qui en fait la promotion, restaurant de l'hôtel de ville de Crissier. Mais on est là, on rappelle aujourd'hui, pour parler des pintes ouvertes. Les pintes ouvertes, c'est cette fin de semaine, jeudi, vendredi et samedi, 20 francs pour avoir une planchette, une fondue AOP vaudoise et un verre de chasselas. Et tout ça dans plein de différents lieux du canton de Vaud. Franchement, on va se balader. Bon, on va manger un peu beaucoup de fondue, mais tant qu'à faire, ça fait du bien, quoi.
C'est les fins d'année sont comme ça. On fera un régime. On fera un régime au mois de janvier. Et il y a de quoi manger cette année, puisque avec tous ces participants et les commandes qu'ils ont faites, c'est à peu près 12 000 gourmands qu'on pourra disfaire. C'est 2 tonnes de gruyère, c'est 2400 saucissons vaudois IGP séchés, 1,1 tonne de pain, 1,2 tonne de pommes de terre, 10 000 décis au bas mot, puisqu'on ne va pas se contenter d'un verre de chasselas. Je crois que la fête est belle et nos produits sont bons, donc allons-y.
Tout ça organisé par Gastro, on le rappelle. Merci Gilles Mestre.
Merci infiniment à vous, bon appétit d'avance.
Pinteouverte.ch.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Du monde.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Toute cette semaine, c'est Viana. Comment ça me fait plaisir, ma très chère guide Émilie Cornet. Parce que ça fait 3 ans que j'essaye de venir faire le nombril du monde ici. Malheureusement, par le hasard des choses, ça a toujours été impossible. Et là, aujourd'hui, tu m'accueilles. Merci infiniment. T'as pas idée comme ça me fait plaisir.
Bah, ça me fait plaisir également.
Où est-ce qu'on se trouve? Pour la première capsule, je voulais un lieu qui te fasse, un lieu qui est de l'importance pour toi. Où est-ce qu'on se trouve actuellement?
On est à la place Multiloisirs de Viona. Place Multiloisirs qui se situe très bien, parce qu'elle est vers l'école, la salle des fêtes, la salle de gym et la crèche.
Donc vraiment, Multiloisirs, le loisir d'apprendre, le loisir de faire la fête avec la salle des fêtes. Et puis là, ici, on a... Mais il y a une installation sportive qui est énorme. On a des bars pour faire des tractions, pour faire des pompes. On a des jeux pour les enfants. On a un pump track.
Un super pump track qui est utilisé par les enfants de Viona, qui est très peu connu par les autres personnes alentour, malheureusement. Parce qu'on est un peu caché.
C'est vrai qu'elle mais pourtant un peu caché, mais on est à 50 mètres de la grande rue, enfin de la rue principale.
C'est ça, de la route cantonale.
La route cantonale, mais oui.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que si on ne sait pas qu'il y a ça ici, est-ce qu'on va se balader forcément dans cet endroit-là, vers l'école, comme ça, pour venir voir s'il y a un pump track ici?
Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bien fait de venir aujourd'hui, comme ça on le sait. Et pourquoi tu as voulu choisir cet endroit-là?
Parce que je voulais choisir un endroit qui est vivant, vraiment. Et c'est un endroit vivant ici, par l'occupation, les parents, le mercredi après-midi, qui se retrouvent ici avec les enfants, donc des goûters. Il y a des manifestations aussi. Tu vois, juste là-bas, il y a mon jardin communautaire.
Il y a un petit jardin communautaire.
Un petit jardin communautaire. Donc, on a créé l'association il y a une année, ouais. Tu vois. Aussi, qui travaille avec l'école, la crèche, et qui est intergénérationnel et tout.
Ah, très bien, ça.
Ça nous fait vraiment le point culminant, je dirais, de Viona pour les rencontres. Et puis... le pump track est super utilisé par les enfants. Ils s'éclatent, la vélo en trottinette. Bon, il y a 2-3 accidents de temps en temps.
Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage.
Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, on a eu un camp sportif là cet été, parce qu'on a une jolie petite cour aussi. Là, c'était le MS Sport, je crois. Voilà. Les infrastructures utilisées par les écoles, bien sûr.
Ouais. et on est à flanc de montagne. Il y a la forêt juste à côté. Aujourd'hui, il fait beau, il y a quelques nuages. Le jour est en train de se lever sur l'ombre du monde. Eh, ça va, c'est joli, Viona.
C'est magnifique, Viona. Surtout en automne.
Ça va, c'est joli, Viona. Ah, mon boulot, j'adore.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais.
Voici venir les barbes à papa.
Ah, qui ne connaît pas les barbes à papa? Peut-être que cela a bercé votre enfance ou celle de vos enfants ou de vos petits-enfants. Mais pourquoi en fait barbe à papa s'appelle barbe à papa? Parce que tout le monde les connaît, hein, ces personnages piriformes qui ont la faculté de changer de silhouette à volonté, c'est trop génial. La série a commencé avec des livres pour les enfants, elle a été créée en mai 1970 par un couple franco-américain, Annette Tyson, architecte, et Talus Taylor, auteur d'ouvrages pour la jeunesse. Voilà comment tout a pris forme, d'où est venue leur inspiration. Tous deux se promènent au jardin du Luxembourg. Talus Taylor entend un enfant réclamer quelque chose qui s'appelle ba-pa-pa-ba-pa-pa-ba-pa. Bon, vous voyez le truc. Ne comprenant pas le français, il demande la signification à son épouse qui lui explique qu'il s'agit d'une friandise, de fête foraine, un gros filage de sucre autour d'un bâton, et que cette sucette géante s'appelle barbe à papa. Et quelques heures plus tard, tous deux, dans un restaurant, se mettent à dessiner sur la nappe un personnage inspiré de cette friandise. Et voilà pourquoi, contre toute logique sexuée, le père barbe à papa est rose.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste!
Sur Radio Chablais.
Un geste aujourd'hui pour les enfants malades et hospitalisés grâce à une association. Alors le début de l'histoire est quand même assez triste. Hein. C'est un couple qui a décidé de réunir des cadeaux suite au décès de leur fille pour les enfants atteints du cancer. Et une association est née dans la foulée, pas qu'aux autres. C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'apporter franchement une étincelle de joie dans le quotidien, autant des familles que des enfants malades. Elle a été créée en 2015, cette association, et depuis elle perdure, elle grandit, elle a beaucoup de succès. Et depuis, des milliers de cadeaux ont été livrés aux CHUV. Des cadeaux récoltés par l'association qui sont ensuite distribués par le corps médical. Et là, c'est la magie. La magie se fait. Un échange joyeux, un échange qui illumine petits et grands. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est offrir des cadeaux, tout simplement. Alors, des jolis cadeaux. Si possible, pas de peluche en raison d'hygiène. Et pas de jeux usagés, mais des jolis jouets neufs que vous emballez, que vous étiquetez avec l'indication de genre et d'âge et que vous offrez à l'association qui fera suivre pour égayer le quotidien des enfants malades aux CHUV.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste!
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais. Suis.
Voici les titres du journal.
Le lycée-collège de Saint-Maurice ouvrait ses portes au public ce week-end. L'occasion pour les futurs élèves de découvrir un établissement qu'ils vont fréquenter ces 5 prochaines années. La période de l'Avent est lancée avec l'ouverture des célèbres fenêtres de l'Avent grandeur nature. Dans certaines localités, comme à Massonger, la tradition perdure. Week-end prolifique pour le BBC Monté et le BBC Trois-Torrents en basketball. Les deux équipes se sont imposées au reposieux samedi. Et en ski alpin, la gloire pour Camille Rast. Réaction de sa maman dans ce journal.
Et pour la météo, des nuages pour aujourd'hui, des nuages aussi pour demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Le lycée-collège de Saint-Maurice ouvrait ses portes samedi, comme c'est le cas tous les deux ans. Un événement qui a permis aux futurs élèves de mieux appréhender un établissement imposant, en comprendre son fonctionnement et les perspectives qu'il peut offrir. Les étudiants actuels ont d'ailleurs mis la main à la pâte pour cette journée en tenant plusieurs stands explicatifs. Parents et futurs collégiens ont aussi pu échanger avec le corps enseignant et la direction. Le recteur du lycée-collège de Saint-Maurice, Alexandrine Aichen, revient sur le but de cette journée porte ouverte.
Ce qui nous importait aussi, c'est pour montrer un peu notre travail que l'on fait au jour le jour. Je crois que c'est important. C'est vrai que l'école, elle risque de toujours être une tour d'ivoire. Et je pense que c'est bien que les parents se rendent compte de ce qui s'y vit, de comment vivent leurs enfants ou comment vivront leurs futurs enfants.
Si en termes de qualité d'enseignement, le collège est au crédit d'une bonne réputation, pas besoin toutefois de parler de compétitivité entre établissements gymnasiales. On retrouve Alexandrine Aichen.
Ouais, je pense que ça, c'est un avantage du fédéralisme, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut. Là, ça sera un peu caricaturé, mais c'est surtout aussi, on va un peu tous dans la même ligne en discutant et puis en s'imprégnant un petit peu des expériences, des bonnes expériences des autres, ou en donnant aux autres nos bonnes expériences. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important, parce que c'est vrai que si on imagine une éducation qui serait un petit peu mise d'en haut, ben, on imposerait là. Je ne suis pas sûr que ça marche. C'est vraiment que les professeurs, les établissements s'imprègnent et s'approprient un petit peu les bonnes expériences de chacun.
Pour rappel, le lycée-collège de Saint-Maurice, c'est plus de 1100 élèves répartis en un peu plus de 50 classes. Le taux de réussite de la maturité fédérale s'élève à 98% en fin de cinquième année. Un sujet signé Ludovic Turin.
La période de l'Avent est officiellement lancée.
Depuis hier, le compte à rebours jusqu'à Noël est en route. Outre décorations et autres réflexions sur les idées de cadeaux, c'est surtout une période qui rassemble. Bien connue en fin d'année, les fenêtres de l'Avent offrent des moments conviviaux chaque soir aux quatre coins d'un village. Si dans certaines communes de la région, la tradition a tendance à se perdre. Ce n'est pas le cas à Massonger, surnommé les vins chauds de l'Avent. Ces rendez-vous chaleureux sont même fortement demandés, à en croire Jennifer Setou, municipale Massongeroude en charge des événements.
Il faut savoir qu'il y a 3 ans, c'est la première année, on n'avait pas pu faire les vins chauds à cause du Covid. C'était encore un peu compliqué quand j'étais là. Mais avant, c'était que le mercredi, vendredi et samedi. Et puis on a vu qu'il y avait, beaucoup de demandes quand même pour ces vins chauds, donc on s'est dit pourquoi pas ouvrir des autres soirs. Donc nous on a ouvert, avec la commission, on a décidé d'ouvrir les autres soirs, et puis on voit que la demande est là, quoi. On a du monde, on a des familles, des sociétés et des entreprises qui participent, donc c'est vraiment chouette de voir qu'il y a cet engouement au mois de décembre, avant les fêtes, même que tout le monde est vraiment très occupé, on a tous un agenda de fin d'année assez complet, donc pour nous c'est vraiment chouette.
Une tradition bien ancrée qui permet des rencontres et surtout de faire battre le cœur d'une commune. Seul bémol, difficile d'attirer une jeunesse souvent réfractaire, comme nous le confie Jennifer Setou.
Alors là, c'est vrai que on a les familles qui viennent avec leurs enfants, mais on voit, je pense que c'est un peu partout pareil, c'est compliqué. Pas que les jeunes sont compliqués, mais cet attrait à ces soirées conviviales, moi je pense qu'à partir de 13-14 ans, c'est plus compliqué de faire venir ses enfants. Moi, je vois, j'ai un garçon de 15 ans, alors il vient, il passe, il dit bonjour et il part, mais c'est encore, je crois, dans beaucoup d'endroits, le sujet pour les jeunes, à partir de cette tranche d'âge-là, encore à étudier et puis à trouver des choses peut-être qui puissent les faire un peu plus venir et participer. Mais c'est vrai qu'un peu partout, je pense que dans les communes, on a ce souci de comment faire pour attirer nos ados, quoi. Nos ados qui sont en demande aussi quand même.
Un sujet signé Ludovic Turin. Les polices vaudoises mènent une campagne de prévention contre l'alcool au volant. Elles rappellent que chaque année, des personnes sont tuées ou grièvement blessées en raison d'accidents de la circulation causés par la boisson, l'inattention, la distraction et la vitesse inadaptée. La prudence est conseillée en ces périodes de fête. Par ailleurs, la police annonce que des contrôles ciblés avec tests d'alcoolémie seront renforcés. C'est la première fois qu'un géant des matières premières est jugé pour corruption devant le tribunal pénal fédéral. Le procès de Trafigura s'ouvre aujourd'hui à Bellinzone. L'entreprise de négoce est poursuivie aux côtés de 3 personnes physiques en lien avec ses activités dans le secteur pétrolier en Angola. Des pots de vin auraient été versés à un agent public pour favoriser Trafigura lors de la signature de contrat. La multinationale aurait ainsi réalisé des profits de plus de 140 millions de dollars. Adria Boudricarbo est enquêteur spécialiste des matières premières auprès de l'ONG Public Eye. Il dévoile ce que risque Trafigura avec ce procès.
Au niveau financier, c'est pas grand-chose. Hein. Dans ce type d'affaires, l'amende maximale, elle est de 5 millions de francs suisses. Peut-être encore moins si Trafigura arrive à prouver qu'ils ont intention de collaborer dans le cadre de cette affaire. Mais le dommage, il est réellement réputationnel. Pour Trafigura, c'est pas du tout bon de se retrouver comme ça dans une salle d'audience avec des juges qui vont se pencher sur la double comptabilité qu'ils avaient mis en place, sur les intermédiaires qui étaient chargés de verser des pots de vin. Et puis aussi avec des accusations qui visent notamment l'ancien directeur de Trafigura, décédé en 2015. On sent que l'omerta dans le secteur est déjà en train de se fissurer, parce que donc, la famille de M. Claude Dauphin, décédé en 2015, a réagi très très fortement à l'évocation du nom de M. Dauphin dans l'acte d'accusation. Donc il considère qu'en fait M. Dauphin est jeté en pâture aux médias, et puis surtout il permet à Trafigura, en fait, à la direction actuelle, de se dédouaner en mettant toute la responsabilité sur une personne décédée.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. Le procès de Trafigura devrait durer 3 semaines. À l'étranger, le gouvernement français dirigé par Michel Barnier survivra-t-il à la semaine qui s'ouvre? Le rassemblement Rassemblement national a annoncé aujourd'hui son intention de voter la motion de censure que la gauche pourrait déposer sur le budget de la sécurité sociale si le gouvernement avait recours au 49-3. La Chine soutient le régime syrien dans ses efforts pour maintenir la sécurité nationale et la stabilité, a affirmé aujourd'hui un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian. Moscou a dit continue de soutenir le président syrien Bachar al-Assad et vouloir l'aider à stabiliser la situation après la prise de contrôle d'Alep. En sport, en basketball, le BBC Monté-Chablais a conclu son premier tour de championnat de la meilleure des manières. Les Sangliers se sont imposés 85 à 80 samedi au Reposio face à Spinelli Massagno, grâce notamment aux 25 points de Jared Kimbrough. Une victoire qui fait du bien après une entame de saison très compliquée. Le capitaine des Jaunes et Verts, Clayton Lessan, en est convaincu, le vent est en train de tourner.
Je pense que la mentalité a complètement shifté. Je pense que le match à Lyon a fait du bien. Je pense que voilà, Lugano, c'est vraiment qu'on était dans les bas-fonds. On ne pouvait pas être plus bas que ça. Et à partir de là, Lyon a commencé à shifter. À l'entraînement, on n'arrêtait pas de voir qu'on jouait vraiment bien. Et c'était juste frustrant qu'on n'avait pas bien joué en match. Et là, finalement, on arrive à montrer encore des trucs qu'on fait à l'entraînement. Mais pareil, on n'est pas encore, je pense, atteint notre potentiel. Mais c'est clair que ça a shifté à partir de Lyon, Fribourg, et puis là, on veut continuer sur cette lancée. Ouais.
Le BBC 3 Torrents s'est lui aussi imposé samedi. Les Chorgues ont battu Genève 71 à 68 et ainsi repris leur marche en avant après deux défaites face à Lyon et Fribourg. Rien n'a cependant été simple pour les Chablaisiennes. Le manque de rotation dû à un effectif très court commence à laisser des traces. C'est ce que nous explique la coach Émilie Duvivier.
Ça commence à se sentir, en tout cas. Ça commence à se sentir. Après, voilà, hein, comme je leur dis tout le temps, c'est notre équipe. C'est notre équipe. Il y a les petites jeunes qui arrivent aussi et qui progressent de plus en plus et qui vont pouvoir jouer. Je fais rentrer Noémie. Après, sur des matchs serrés, je pense que ce serait plus les faire stresser pour rien que de les faire rentrer. Mais voilà, elle mérite tout autant de jouer et ça va venir tout au long de la saison. Et puis, de toute façon, voilà, il faut les cadres, il faut qu'elles se reposent à un moment donné. Mais c'est comme ça.
Trois Torrents disputera sa prochaine rencontre samedi prochain sur le parquet de Baden. Monté se déplacera quant à lui mercredi sur le parquet d'Union Neuchâtel. Un dossier préparé par Thierry Nicolet.
Soirée inoubliable pour Camille Rast et pour toute sa famille.
La Vétrozaine de 25 ans a obtenu hier le premier succès de sa carrière en Coupe du Monde. À Killington, elle s'est imposée devant deux concurrentes ex-aequo, la Schweizoise Wendy Holdener et la Suédoise Anna Sven Larsson. Pour la Valaisanne, Camille Rast, c'est la récompense. Pour ses parents, un torrent d'émotion. La réaction de sa maman Marlène, contactée par notre confrère de Rhône FM quelques minutes après l'exploit.
Ouais, je disais que... On fait marcher l'industrie du mouchoir en Valais ce soir. il y a tout le monde qui nous écrit, il y a tout le monde qui pleure.
Vous êtes assaillie de messages. Oui. Ces succès, c'est un peu les vôtres aussi, d'une certaine manière.
Alors non, c'est vraiment le sien, c'est elle qui fait tout. Nous, un jour, quand on a un enfant, on l'élève, on fait le chemin avec. Et puis, que ce soit une sportive comme Camille, que ce soit... un enfant qui a plus de difficultés, c'est pas notre victoire, c'est la sienne, c'est rien qu'à elle, c'est son travail, c'est tellement beau pour elle, donc on est content pour elle, mais c'est vraiment à elle. Hein.
Un succès mérité pour Camille Rast, un succès qui lui appartient et qui ne va pas changer la vie de la Vétrozaine, toujours selon sa maman Marlène.
Ah ben non, rien, moi je pense qu'elle va pas changer sa vie, elle va continuer à vivre la même chose. Non, je pense qu'elle va rien changer. Je ne sais pas. Je pense qu'elle va rien changer. C'est beau, c'est génial, mais ça s'arrête pas, quoi. Il faut continuer. C'est tellement incroyable. Ouais.
On imagine que vous vous réjouissez des futures retrouvailles.
Oui, alors ça, oui. On ne sait pas quand elle rentre, mais je me réjouis de la serrer dans mes bras. Vraiment.
Camille Rast devrait rentrer en Valais ces prochains jours avec bonus non négligeable, le statut de première au classement général de la Coupe du Monde. La fête ne fait peut-être que commencer à Vétro.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
François Marais, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez un livre incroyable, Histoire au pluriel, Histoire de l'art à la rencontre des peintres de la Renaissance au 19e siècle. Vous êtes dessinateur de BD, dessinateur de presse, on va en parler, vous enseignez l'histoire de l'art. Et là, c'est c'est une BD qu'on peut en faire entrer dans la catégorie beau livre des fins d'année.
Merci.
C'est vraiment un roman graphique paru en France, à la maison d'Unographique. On va en parler assez largement de cette démarche. Rendez-vous à Saint-Maurice, c'est vous qui avez choisi le lieu. On est un petit peu dans la Mecque de la BD, là.
Alors, en Valais, oui, c'est la Mecque de la BD, avec le château de Saint-Maurice et son directeur actuel, Philippe Duvanel, qui est je vais l'encenser un petit peu, mais qui est quand même une personne assez exceptionnelle, honnêtement. Il a toujours été super gentil avec moi, mais en plus, c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre en valeur la bande dessinée en Valais. On n'est pas à Genève. À Genève, il y a vraiment une culture de la bande dessinée. En Valais, même si on a l'EPAC, une école qui enseigne cette bande dessinée, le château de Saint-Maurice, il nous fait des expositions merveilleuses. La dernière, c'est Zep. Ça va changer.
Depuis le début de cette émission, on arrive gentiment, c'est depuis le début de cette année, on arrive gentiment à 150 émissions. J'ai eu 3 auteurs de BD. Zep, il exposait ici. Hélène Béclin, elle est de Saint-Maurice, on s'est vu aussi ici. Et maintenant, vous me donnez rendez-vous à Saint-Maurice, alors que c'est pas votre lieu. Ça veut dire vraiment, on est dans la capitale de la BD valaisanne, c'est sûr. Et puis avec un rayonnement suisse roman. Vous êtes dessinateur, je l'ai dit, vous avez fait du dessin de presse pendant longtemps, vous avez illustré toutes sortes de choses, fait des albums et enseigné l'histoire de l'art. D'où vous vient l'envie du crayon, l'envie de crayonner ?
Alors moi j'ai découvert ça quand j'avais 14-15 ans, mes premières années d'école normale. L'école normale existe encore, donc cette école qui formait les instituteurs. J'ai croisé une personne qui habite ici maintenant, Dominique Format, qui était un copain et qui lui dessinait déjà un personnage qui s'appelait Moustibi. Et on est devenus super copains. Et puis je crois qu'il m'a ouvert plein de portes. Et là j'ai commencé à dessiner, mais vraiment à haute dose. J'ai copié tout ce qui existait. Donc c'est 14-15 ans, c'est vraiment ma première découverte de la BD.
J'ai lu une phrase de vous qui dit tout le monde a dessiné enfant sans se poser de questions, puis quand tu arrives vers 15 ans et que tu dessines, tout doit être juste, et là la majorité des gens abandonne, et c'est mon cas, donc c'est une phrase qui m'a rassuré. Il y a quelque chose de corseté dans l'apprentissage du dessin. Alors, déjà, dès qu'on entre dans un apprentissage, ça veut dire, si tu sais pas, t'es éjecté, quoi.
Alors, oui, mais je pense au niveau du dessin, on s'éjecte tout seul. Alors, j'ai été formé comme enseignant et j'ai enseigné une vingtaine d'années au cycle. Et c'est cet âge-là qui est que je trouve, moi, un peu charnière au niveau du dessin. Quand on a affaire à des petits, j'ai des petits-enfants, ils dessinent, c'est pas un problème. Ils veulent dessiner un carrosse avec 12 chevaux, une falaise. Ils dessinent, c'est pas juste, c'est pas grave, c'est beau. Puis quand on arrive à 12, 13, 14 ans, on a envie que ça soit juste. Et là, ça devient techniquement plus compliqué. Le regard des gens, on n'est plus des gamins qui font un dessin avec 3 traits et puis tous les parents font « Oh, c'est merveilleux, ils affichent ça pendant 6 mois. » Et puis on oublie, mais à cet âge-là, ça commence à basculer et on perd cette envie.
Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Ouais. Mais par contre,
parce que moi,
la fascination.
L'école, au collège Saint-Maurice, même avant, au cycle d'orientation, il y avait des cours de dessin et d'histoire de l'art, et je me sentais disqualifié parce que j'étais gauche. Mon dessin, il ressemblait à rien. Les seules fois où il ressemblait à quelque chose, j'avais l'idée. Tiens, c'est Raphaël d'ailleurs dans votre bouquin qui dit l'important c'est pas celui qui fait, c'est celui qui a l'idée. Ouais. Donc ça c'est bien, ça moi je m'identifie à Raphaël. Je faisais faire le dessin par ma sœur et puis là j'avais une bonne note parce qu'elle savait dessiner.
Alors j'ose pas dire mais j'ai fait le travail de Mathieu, de ma femme. Mais j'ai aussi fait un dessin pour mon fils quand il était au collège des Creusets et j'ai eu 4. Hein. Donc, imaginez, donc c'est... Alors comment dire, je veux pas critiquer l'enseignement d'avant. Mais je pense que ça s'est quand même pas mal amélioré sur cette approche, sur cette façon de valoriser ce travail, sur cette une espèce de liberté qu'on peut donner aux étudiants, aux élèves, de faire quelque chose. Mais là, je parlais surtout pas de l'enfant, puisque c'était de l'adolescent qui a de la peine à ne pas réussir ce qu'il avait voulu. Il a l'idée, mais il a pas la technique, et ça fait un petit peu peur. Puis on s'arrête. Puis il y a toujours ceux qui savent super bien faire. Alors je dis ça pour l'enseignant, c'est
que nous aimons détester.
Oui. Puis ceux qui savent super bien faire, le problème qu'ils ont plus tard, c'est qu'ils savent super bien faire peut-être une chose. J'ai eu des étudiants au collège qui savent dessiner du manga notamment très très bien. Puis quand on leur demande autre chose, ils sont perdus. Parce que tout d'un coup, ils n'ont plus la maîtrise totale. Et ça, c'était mon boulot, notre boulot d'enseignant, de les mettre en situation de nouvelle création, sans les déstabiliser. Et ça, c'est le plus beau côté de l'enseignement, c'est-à-dire de les bousculer pour qu'ils fassent quelque chose de nouveau. Mais c'est dur, parce qu'en général, dans le dessin, ils mettent des choses qui viennent de leur tripe. Puis quand on vient, puis qu'on regarde, on dit « Oui, c'est bien, magnifique, 4,5. » Oui, monsieur, 4,5. Alors, faut mettre des notes, c'est l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur. Parce que le travail, il est personnel. Et plus on avance, plus ça vient on a envie de créer quelque chose. C'est hyper personnel. Un devoir d'allemand, un devoir de maths, il n'est pas super personnel. Un dessin, il est personnel de toute façon. Et quand il est jugé, c'est dur. Oh. C'est super dur.
Bon, il devient jugé quand on en fait son métier, quand le public entre en scène. Vous dites, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'ai tout copié. Ça veut dire aller aussi vers l'académisme, vers essayer, quoi.
Alors oui, je crois que c'était ça. Moi, j'ai copié Franquin, j'ai copié Black et Mortimer, j'ai copié Luc Orient, j'ai copié tout ce qui me passionnait.
Gottlieb.
Ah ouais, bah ouais. Évidemment, inévitablement.
Non, je
Gottlieb.
Dis ça parce que vous avez votre petit personnage qui suit tout ce voyage à travers l'histoire de l'art, qui m'a fait penser évidemment à la petite coccinelle de Gottlieb.
Alors, j'ai remplacé la coccinelle de Gottlieb par un trognon de pomme. Depuis que j'ai 14-15 ans, je mets dans tous mes dessins, sauf si j'oublie ou si je trouve pas un problème technique, j'ai un petit trognon de pomme quelque part. Toujours. Des fois, je signe même pas, je mets